Nous ouvrons la seconde partie de cette édition. Deux personnes, dont un militaire des FARDC, sont mortes et des maisons d'habitation incendiées dimanche dans le village de Tété et dans la collectivité de Walindupiti et à Bloukwa, en chefferie de Bahema Nord, dans le territoire de Djougou. C'est suite à une tension qui persiste depuis le week-end dans cette zone. Des sources concordantes rapportent que l'attaque de certaines femmes paysannes par des présumés Lindupiti est à l'origine de cette situation. Depuis Bounia, Isaac Raymond nous en parle dans ses dossiers.
Des sources locales indiquent que des femmes de la communauté Ema qui étaient au champ ont été agressées par certains hommes munis d'armes blanches au village de Tété dans le secteur de Walindupiti. Ces femmes ont été grièvement blessées par machette. L'une d'elles serait morte. Pris de colère, les familles des victimes ont incendié tous les villages de Tété pour venger leur sœur. Toujours à représailles, certains ressortissants de Walindupiti ont également incendié certaines maisons dans la localité de Bloukwa, en chefferie de Bahema Nord. Le chef de secteur de Walindupiti, Émile Lombé, explique la situation.
Il y a eu un incident au marché de Ouzi. Alors, ce sont les fouillards qui auraient dit quelque chose qui a incité les autres là-bas. Mais les gens qui sont victimes aujourd'hui du coup de machette là, qui sont à l'hôpital, ce sont des gens qui étaient en train de récolter, semble-t-il, leurs haricots dans les villages d'été, pour la simple raison qu'ils sont des Hema. La revanche aussi n'est pas à encourager parce qu'on a brûlé le village d'été la nuit. L'un de ceux qui allait brûler un village à Bloukwa, on a aggravé les faits.
Le chef des collectivités de Walindupiti s'est dit inquiet de l'ampleur de ces conflits qui risquent d'embraser la région. Il lance un appel aux habitants de la région de privilégier la paix pour ne pas réveiller les anciens souvenirs des drames qui ont déli l'Ituri. Joël Mandelonema.
J'interpelle même mes gens des groupements Gobi qui sont très proches de la situation, de garder un peu de calme. Puisque avec des situations comme ça, ça risque d'embraser toutes les trois chefferies, ce n'est pas bien.
L'administrateur du territoire de Djougou confirme la tension observée dans son entité. Pour lui, il n'y a pas eu des morts parmi les femmes paysannes. Il interpelle les parties au conflit de ne pas généraliser ces conflits au niveau identitaire qu'il qualifie d'effet isolé. Alfred Bongwalanga.
C'est vraiment un cas isolé. Nous sommes en train d'appeler au calme et surtout à la prise de conscience collective et pour sauvegarder cette paix chèrement acquise. Ce n'est pas un problème de communauté. C'est un individu qui a commis une infraction et la police est à la trousse de cette personne qui sera arrêtée.
Selon les porte-parole des phares de Saint-Ituri, un militaire qui était de passage a été tué par un groupe en colère qui accuse l'armée de soutenir l'un des groupes partis au conflit. Le capitaine Carlos Calombo fistige cet acte contre l'armée dont le rôle est de sécuriser tous les citoyens congolais.
L'Inde pour eux croit que les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo sont pour les guerriers et non pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont mis la main sur un militaire aussi qui était de passage. Le problème ethnique ne peut pas concerner les forces armées de la République démocratique du Congo. Et en plus de cela, l'armée ne peut jamais avoir un parti.
Signalons qu'un communiqué conjoint a été signé ce lundi à Bounia par les chefs coutumiers des communautés Lindou et Ema pour appeler au calme les membres de leurs entités respectives.
Revue de presse.
Deux grands sujets raflent la une des quotidiens parus ce matin à Kinshasa. Il s'agit de la marche du rassemblement prévue ce mardi et de la conférence des gouverneurs. Jean-Désiré Kanyama a lu pour nous les journaux.
L'Avenir titre à la une, prétendue marche de ce mardi, Kimbuta interdit, le RASOP persiste. Et du coup intervient ce questionnement du quotidien de l'Avenir Bakongo, qui du RASOP limité ou de l'île de Tshisekedi a initié une prétendue marche de sommation sur toute l'étendue de la RD Congo. Du berger à la bergère, réponse du journal L'Avenir, il convient de dire d'emblée qu'un communiqué signé par Jean-Marc Kabound à Kabound, secrétaire général de l'UDPS, avait informé le gouverneur de la ville de Kinshasa de la tenue d'une marche pacifique de ce mardi. Mais pas de communiqué officiel du côté du rassemblement, écrit L'Avenir. Un forum des As revient sur le même titre et écrit, dans une correspondance adressée hier lundi à Jean-Marc Kabound, le gouverneur de la ville province de Kinshasa, André Kimbutayango, a clairement déclaré ne pas prendre acte de cette marche voulue pacifique par ses organisateurs. Il précise, dans la même missive, que le calendrier électoral de la CENI ayant fixé l'organisation du scrutin au 23 décembre 2018, plus rien ne justifie cette marche. Mais au cas où la manif serait effective, les ténors d'IRASOP auront ainsi agi sans avoir l'aval préalable de l'autorité urbaine, écrit Forum des As. À ce quotidien de chuter ainsi, Silvano Kasongo promet de faire respecter les instructions de l'autorité politico-administrative. 7 sur 7.cd pour clore ce chapitre écrit ce mardi, meeting, Q culte d'action de grâce et conférence débat à Kinshasa et dans les chefs-lieux des provinces. Point barre. Venons-en à la conférence des gouverneurs avec ses titres de 7/7.cd ouverte hier à Goma par le président Joseph Kabila. La 6e édition de la conférence des gouverneurs se clôture ce mardi. Ces assises sont placées sous le thème central, la mobilisation des recettes propres aux provinces et leur structure de dépenses. Selon l'article 200 de la Constitution, cette conférence a pour mission d'émettre des avis et de formuler les suggestions sur la politique à mener et sur la législation à édicter par la République, précise 7/7.cd.
L'invité.
Le réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice appelle à une interaction entre policiers et civils pour résoudre les problèmes sécuritaires à la base. Cette organisation de la société civile reconnaît cependant que le gouvernement ne met pas suffisamment de moyens à la disposition de la police pour lui permettre d'accomplir sa mission. Clovis Kadda, coordonnateur national adjoint de ce réseau, explique cette approche et les difficultés rencontrées sur terrain dans cet entretien avec José Deschartmenga.
Clovis Kadda, bonjour.
Bonjour.
Vous vous êtes entretenu aujourd'hui avec un groupe des jeunes, des femmes, des chefs de quartier de Bounia. De quoi a-t-il été question ?
Il a été question de parler de l'approche dynamique d'implication des communautés de base dans la mise en œuvre de la police de proximité. C'est une approche qui a été développée par les réseaux pour la réforme du secteur de sécurité et de justice il y a maintenant 4 ans. Nous avons eu à l'expérimenter au Sud Kivu, au Kasaï, l'actuel Kasaï central et Congo central. Et nous avons voulu transposer la même expérience dynamique communautaire ici à Bounia. Voilà pourquoi nous avons eu cet échange.
Votre approche voudrait quoi sur les terrains ?
L'approche dynamique communautaire, c'est impliquer davantage la population dans les questions sécuritaires qui les concernent. Donc, si c'est un quartier de Bounia, la personne qui est au quartier ne va pas extrapoler en pensant d'abord à la ville. Ils se réunissent pour résoudre les problèmes de leur quartier. Et la dynamique communautaire veut qu'un quartier soit subdivisé en 5 zones communautaires. Ce qui fait que quand on se retrouve pour le forum des quartiers, on a la prétention d'avoir touché tous les quartiers. Parce que chaque quartier est subdivisé en 5 zones communautaires et chaque zone communautaire délègue des personnes et c'est une bonne façon de rapprocher davantage la police et la population parce que l'idée c'est de renforcer le travail de la population, de permettre à la communauté de s'impliquer ou de s'approprier les processus de la réforme de la police et de faire comprendre aussi à la police qu'elle doit collaborer avec la population, non seulement collaborer, mais il y a aussi la notion de redevabilité. La police doit être redevable à un certain niveau et l'idée, c'est d'amener aussi les autorités locales à être aussi redevables en matière de sécurité.
Mais quand il arrive, par exemple, que la police ne coopère pas, parce qu'il y a des cas comme ça qui ont été enregistrés, ça et là, notamment ici dans la ville de Bounia, qu'est-ce que vous conseillez dans ces cas-là ?
Bon, nous pensons que c'est une mauvaise façon de voir les choses. Parce que la police a tout intérêt de collaborer avec la population. Parce que, comme vous le savez, la première personne à savoir qu'il y a un malfrat ou quelqu'un qui se cache, c'est pas la police. C'est la population qui sait que, à tel endroit, j'ai vu quelqu'un de suspect. Et si la population est mise en confiance, et ça c'est très important, l'aspect confiance, si la population est mise en confiance par la police qui agit efficacement en fonction de ce qu'on lui rapporte comme information, ça va permettre maintenant à la population ce que nous appelons au niveau du réseau, la complicité positive. C'est-à-dire la population collabore positivement avec la police pour résoudre le problème sécuritaire au niveau local.
Oui, en rencontrant certains acteurs de la sécurité, notamment des policiers, c'est bien beau cette approche que vous développez. Mais ces acteurs de la sécurité disent par exemple que les moyens ne suivent pas, ce qui justifie des fois qu'il n'y ait pas cette collaboration-là, donc qui se rabattent sur des habitants du quartier et ça se transforme en tracasserie. Est-ce que tous les moyens sont mis à la disposition de la police pour réussir cette approche-là ?
Ce que vous dites là est vrai, mais nous pensons que nous, société civile, nous nous sommes battus depuis quelques années pour obtenir certains textes et lois en matière de la réforme du secteur de sécurité en général et de la police en particulier. Si je prends par exemple la loi portant programmation de la réforme de la police nationale congolaise, elle définit clairement ce que le gouvernement doit mettre à la disposition de la police en matière d'équipement, en matière de moyens pour permettre à la police d'être professionnelle et efficace.
Effectivement, ce texte existe, c'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure, ça existe, mais est-ce que les moyens sont là ?
Les moyens ne sont pas là. Dire vrai, les moyens ne sont pas là et c'est ça notre grand combat au niveau de la société civile. La loi portant programmation de la réforme de la police, elle a été promulguée par les chefs de l'État, mais elle souffre d'application. Vous pouvez voir que on a pris une partie de la loi, on a intégré dans la loi financière, mais curieusement, même maintenant pour les déboursements, vous arrivez à la fin de l'année, la police n'a pas reçu ce qui était prévu, et c'est là où ça pose problème. Nous pensons que au niveau du gouvernement, la volonté politique doit être manifeste. Le gouvernement voulait réformer, et nous sommes derrière pour l'accompagner, et les signes doivent être là pour prouver que réellement on veut une réforme. Parce que les grands problèmes, c'est les conditions socio-professionnelles du policier. Tant que cela n'est pas résolu, donc le policier va toujours chercher à se rabattre sur la paisible population, et ça crée toujours ce problème de crise de confiance. C'est que nous battons pour améliorer, que la confiance renaisse.
Clovis Kada, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Okapi Sport. La page sportive dans ce journal avec Enoch Matondo. Bonjour.
Bonjour, Jusline Moussa Opondé. Bonjour à tous les amis sportifs. Coupe d'Afrique des clubs champions de basketball, RADES 2017. La SPI Mazembe termine en groupe B à la 6e position avec 6 points juste devant Gombe Bulls du Nigeria. Le premier de ce groupe, c'est l'équipe locale de Monastir, tandis que la SPI New Gen termine à la dernière place en groupe A, 6 points également à son actif. Quant aux autres, les quarts de finale se sont joués hier avec la victoire de l'association sportive Salé qui a battu Ferroviaire de Beira sur le score de 92-63. Victoire également du club angolais de Recreativo de Sportivo devant leurs homologues d'Interclub. Et score du match 71-65. Les demi-finales se jouent donc ce mardi, toujours à Rades. Nous sommes en Tunisie. Championnat national de football division 1, la Ligue nationale de football a infligé, vous le savez, 3 forfaits au FC Renaissance du Congo pour avoir aligné des joueurs non en règle lors de ces rencontres respectivement contre le FCMK le 12 novembre 03, TP Moulungé 18 novembre. Face à MK, le FC Renaissance du Congo avait gagné, puis contre Moulongué également, 2-0, puis contre l'AC Rangers. Et dans une décision rendue publique hier après-midi, la Ligue nationale de football réagit par rapport à la requête introduite par la formation de l'AC Rangers qui mettait en doute l'éligibilité des 3 joueurs alignés par le club orange 0-2, mercredi 22 novembre, match de la 2e journée disputé au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Aussi, la Lina Foot suspend 4 mois le secrétaire adjoint du FC Renaissance du Congo André Tutunda pour avoir produit des licences non conformes au classement partiel de la zone ouest. Renaissance se retrouve dernier avec désormais 3 points, goal à virage moins 6 en 6 matchs livrés, loin derrière le dernier club Motema Pembe, leader au classement provisoire avec 14 points, goal à virage plus 6 en 6 matchs livrés, avec club 12 points plus 6, 5 matchs joués. Et puis MK 11 quatrième, 11 points, avec 5 matchs livrés, 6 matchs livrés, goal à virage, plus 5 suivent Rangers, 10 points, 6 matchs joués, Dragon, 7 points, goal à virage, plus 1, RCK, 7 points, goal à virage, plus 0, et Moulungé, 5 points, goal à virage, moins 6, ainsi que North Sport, 6 points, 2 points, goal à virage, moins 6. Parlons de la CAF maintenant avec hier, la cérémonie d'hier où on a dévoilé à Accra au Ghana la shortlist des différentes catégories des awards des meilleurs acteurs de l'année. Les deux catégories les plus attendues sont celles du joueur africain de l'année et joueur africain basé sur le continent. En attendant la cérémonie prévue le 4 janvier prochain à Accra pour l'entraîneur de l'année, le vainqueur sera connu entre le sélectionneur du Nigeria, Gerno Ror, le Marocain Amouta Hussein, vainqueur de la Ligue des Champions avec le WAC, et Hector Kupi, sélectionneur de l'Égypte. Le Wydad Athletic Club, le TP Mazembe et Al Ahly se battent pour le club de l'année. Nous allons y revenir avec d'autres catégories dans notre intervention de 7h26.
Merci Enoch Matondo. On termine ce journal avec le cours de change. Selon le taux de la Banque Centrale du Congo, un dollar américain s'achète à 1560 francs congolais et se vend à 1623 francs congolais. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi.